On va ensemble visiter cette histoire rebondissante de Dieu qui tisse son alliance. Qui peut me dire c'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance pour vous, le mot alliance? Un contrat?
La confiance de quelqu'un.
Waouh! La confiance de quelqu'un. Une union. Un engagement, un mariage. Dieu tisse son alliance. C'est quoi une alliance? Une bague. C'est quoi une alliance, les amis? Dieu tisse son alliance. On fait une alliance déjà, toute seule? Une promesse? Un engagement? Un accord? À deux. Pour faire une alliance, il ne faut pas être seul. Il faut être au moins deux. Et notre Dieu est seul. Il est unique. Mais dans une communauté d'amour, de relations, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce Dieu d'amour, ce Dieu de communion, ce Dieu de relation, ce Dieu a voulu tisser un fil presque invisible, comme ce fil nylon qui relie mes perles. Et il a préparé une fête. L'intention de Dieu, c'est qu'il y a sur le cœur de Dieu de toute éternité, c'est de se réjouir avec son peuple. Amen. Sais-tu que Dieu a voulu se réjouir avec d'autres? Il a créé, tout a été créé pour qu'il se réjouisse, pour qu'il célèbre la fête. Eh bien, comme dans tout anniversaire, on prépare et on pense à qui? Qu'est-ce qui est le plus important dans un anniversaire? C'est ça, effectivement. Il faut se poser des questions. Oui, qu'est-ce qui est le plus important dans un anniversaire?
Les invités.
Oui, les invités. Parce que si le gâteau est là et qu'il n'y a pas d'invité, est-ce que vous serez content de manger votre gâteau tout seul? Franchement, je découvre qu'il y en a qui invitent, qui préparent un gâteau, mais qui se disent, eh bien, qu'est-ce que c'est bien que les invités ne viennent pas comme ça, j'aurai ton gâteau pour moi tout seul. C'est vrai, c'est possible. C'est une possibilité. Mais est-ce que le gâteau est meilleur lorsqu'il est partagé avec d'autres? Ah non, non, lui veut vraiment son gâteau à lui tout seul. Mais en tout cas, nous pensons que la joie qui se partage est une joie qui est davantage, j'ai envie de dire, forte. Et donc Dieu aussi a pensé aux invités. Si Dieu veut se réjouir, il veut se réjouir avec des invités depuis le commencement. Est-ce que quelqu'un a tiré la balle 1? Il y a un numéro sur ta balle peut-être. S'il n'y a pas de numéro, ce n'est pas grave, je te dirai pourquoi. Est-ce qu'il y a un numéro sur ta balle? Quelqu'un a la balle 1? Hé, la balle numéro 1. À ton avis, quels sont les premiers invités auxquels Dieu a pensé?
À vous.
Ah, magnifique. La balle numéro 1, on va afficher la carte d'invitation numéro 1. Vous voyez, cette carte d'invitation nous ramène dans un temps lointain. Nous sommes au tout début. Au tout début du plan de communication de Dieu. Parce que Dieu a organisé son événement, il l'a préparé, mais il a voulu le faire savoir. Il a voulu envoyer une carte d'invitation à des invités. Et là, la Bible nous dit dans Genèse 1 à 3 qu'il a pensé à un couple comme représentant de l'humanité. Il a pensé à Adam et à Ève. Il a eu la bonne idée, la généreuse idée de les placer au milieu d'un jardin. Un jardin qu'il appelle le jardin... C'est là que ceux qui ne connaissent pas se disent « mais je suis nul ». Non, vous n'êtes pas nul. Simplement, vous allez apprendre. Parce que la Bible fait partie aussi du patrimoine culturel du monde. La Bible, ce n'est pas juste un livre pour les croyants. C'est une chose importante. Et peut-être que vous allez épater quelqu'un en disant « dis donc, tu connais le jardin d'Éden ?» Il va te dire « ouais, mais Eden Park, on peut y aller ». Non, 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 le jardin, le premier jardin d'Éden, ça fait de la culture. Le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est littéralement le jardin des délices. Dieu a voulu un lieu délicieux pour Adam et Ève, les premiers représentants de l'humanité. Dieu leur a donné toutes choses. Dieu leur a donné la possibilité d'avoir accès à lui, nos limites. La Bible nous dit que Dieu se promenait au milieu du jardin et il communiquait avec eux. Et la Bible nous dit que Dieu leur avait laissé l'accès à l'arbre de la vie. Ils pouvaient vivre. Dieu leur a donné de manger les fruits de toutes sortes d'arbres, à l'exception d'un. Celui, oh non, c'était ni la pomme ni l'abricot. C'était quoi?
L'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Cette fille, elle bénit. Waouh, elle m'impressionne. Cet enfant est béni. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous imaginez, c'est comme si vous entrez dans votre meilleure pâtisserie et on vous dit, vous pouvez manger de tout, à l'exception de ce fondant au chocolat. Il y en a qui veulent déjà succomber. Hein? Eh bien, finalement, ils n'ont pas vu tout le reste, les macarons, c'est magnifique. Et le serpent diabolique les a trompés en disant, en fait, votre Dieu, il n'est pas si généreux. Votre Dieu, il n'est pas si bon. Votre Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est le péché originel. C'est le mensonge de toujours. Vous serez comme des dieux. Et alors, pour moi qui viens d'Afrique, la découverte de l'autonomie était une lutte, une conquête. Parce que chez nous, vous n'existez pas d'abord comme sujet au départ. L'enfant appartient au village. Vous existez à travers le village. Chez nous, ce qui compte d'abord, c'est la communauté. Mais quand tu découvres la société occidentale, tu te rends compte que ce qui compte, c'est de dire « je pense donc, je suis » depuis quand tu es. Quel plagiat! Vous savez qui a dit « je suis » dans la Bible? Vous savez qui a dit « je suis » dans la Bible? « Je suis », c'est le nom que Dieu a révélé à un autre invité, on le verra. « Je pense donc, Dieu est. » Amen! Moi, je dis, je pense, donc Dieu est, parce que ma capacité de penser me vient de lui. Parce que mon intelligence renouvelée me vient de lui. Parce que tout ce que je peux comprendre me vient de lui. Et la Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés pour glorifier Dieu. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ça. La foi et la raison ne s'opposent pas. Les chrétiens ne sont pas des gens peu raisonnables, mais ce sont des gens qui disent, comme saint Augustin l'a dit, crede ut intelligas, c'est-à-dire crois d'abord et ensuite tu comprendras. Parce que ton intelligence, si elle n'est pas renouvelée par la lumière de Dieu, est une intelligence qui en fait biaise. C'est comme si tu regardais le monde à travers des lunettes mal polies, hein, avec de la buée. Vous avez déjà vu quand vous démarrez votre voiture le matin et qu'avant que la buée ne se dissipe dans l'habitacle, vous essayez de rouler et puis vous passez votre temps à faire essuie-glace avec la main. Et puis là, quelqu'un se voit et dit, mais il n'a pas compris à quoi servent les essuie-glaces et les ventilations dans la voiture. Nous n'avons pas à faire ça. Les premiers invités n'ont pas été à la hauteur. Ils ont piétiné le carton d'invitation de Dieu. Et Dieu est un Dieu juste. Et Dieu leur a dit, vous n'entrerez pas dans la fête. Mais Dieu a dit une parole formidable dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il a dit, je ne laisse pas la fête se gâter. Toi, le serpent diabolique, tu n'auras jamais le dernier mot. Car la descendance de la femme enfantera. Et la femme enfantera et sa descendance écrasera ta tête, même si toi, tu risques de mordre son talon. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire c'est déjà la première annonce de la bonne nouvelle. Et à partir de là, une question se pose, mais qui est donc cet enfant qui naîtra et qui écrasera la tête du serpent diabolique? Oui.
Moi.
Formidable! Oui! Jésus-Christ donne à celles et ceux qui l'ont suivi le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Amen! Oui, tu peux. Quelqu'un a tiré la carte numéro 2, la balle numéro 2. Alors, quels sont les invités qu'on va découvrir maintenant, à ton avis?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un imagine, si vous suivez le fil de la révélation, vous pouvez déjà savoir? Ah! Adam et Ève ont quand même continué à avoir des enfants. C'est écrit, formidable. Alexis, va plus vite, ne me spoil pas tout. Ils ont déjà googlisé et en plus, si tu ajoutes, ça va être trop facile. Adam et Ève ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel. Abel a été tué par son frère parce que le mal est entré, la mort est entrée, la souffrance est entrée, l'injustice est entrée. Et puis, ils ont encore eu un enfant qui s'appelle Seth. Et puis Seth, à partir de cette lignée de Seth, on a commencé à invoquer à nouveau le nom de l'Éternel. Seth est une lignée dans laquelle on a commencé à nouveau à invoquer le nom de l'Éternel. Et Seth va avoir un fils. Parmi plusieurs fils, il va avoir un fils qui s'appelle Noé. Quelqu'un sait ce que signifie Noé? On a vu Chantal. Quelqu'un sait ce que signifie Noé, Noah? Comment? Le repos. Quand le père de Noé, qui n'est pas Seth, hein, Seth c'est son ancêtre, quand le père de Noé a eu Noé, il a dit, celui-ci nous consolera. Il nous donnera le repos, il nous donnera la paix. Parce que le monde était dans un tel bazar qu'on se disait, mais où est cet enfant qui va écraser la tête du serpent? Le serpent a foutu le chaos. Et la Bible nous dit que Dieu trouva un homme selon son cœur, d'une certaine façon. Noé trouva faveur aux yeux de l'Éternel. La première alliance, c'est l'alliance d'Éden. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, d'une certaine façon. Une alliance créationnelle. Vous êtes inclus dans cette alliance. Voici maintenant l'alliance avec Noé. Et comme le monde allait à volo et que tout était tohu, bohu, désordre, Dieu, notre Dieu, qui est le Dieu de l'harmonie, qui est le Dieu du beau, qui est le Dieu de l'ordre, qui est un, c'est le créateur, mais on peut aussi dire que c'est le designer au sens plein du terme. Il ne quitte jamais sa création. Et là, il va faire venir un déluge incroyable qui va balayer le monde comme une purification. C'était douloureux, c'était violent. Et pourtant, Dieu jamais n'abandonne le fil de sa promesse. Il avait promis qu'il y aura une victoire du bien sur le mal par la descendance humaine. Alors, il a gardé une souche. Il a gardé Noé et sa famille. Est-ce que quelqu'un a la balle numéro 3? On va vite. Oui. Et qu'est-ce qu'on va découvrir comme invité? On va découvrir...
Abraham.
Ouais, voilà. Pascal nous dit qu'on va découvrir Abraham, il a raison. Dieu nous surprend, parce que là où il y avait le chaos, il cherche toujours le bien. Là où tout le monde était corrompu, il cherche, il regarde, il cherche quelqu'un qui peut être selon son cœur. Dieu ne nous regarde pas juste ce matin comme une masse, comme une foule. Il compte sur toi. Il s'est dit que même si tout part à volo, il y a quelqu'un de bien qui peut le rejoindre. Il y a quelqu'un qui peut accepter son invitation. Et tu es peut-être celui-là. Noé fut celui-là. Les chapitres 6 à 9 de la Genèse, Dieu fait alliance avec Noé et il décide de ne plus jamais détruire le monde par le déluge et il donne un signe dans le ciel qui est l'arc-en-ciel. Bon, aujourd'hui, il y a arc-en-ciel et arc-en-ciel, mais Dieu dit dans sa promesse qu'il ne détruira plus le monde, et il met un signe dans le ciel qui est un signe d'arc-en-ciel. Et ensuite, Dieu est étonnant. Dieu est étonnant et rebondissant. Alors que les choses recommencent d'aller mal, il y a les nations, il y a l'effronterie humaine, il y a la tour de Babel. Tout ne va pas bien. Il regarde dans tout le monde. Il regarde en Mésopotamie et il y a l'idolâtrie. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Et là, il voit, dans la maison d'un certain Térar, il voit Abraham. Il s'appelait Abraham. Et Saraï, sa princesse, il va les prendre. Un jeune homme de 75 ans. Et il lui dit, tu seras père. Alors, pour un jeune homme, ça se comprend à 75 ans. Mais alors, le défi était colossal parce qu'il dit à Sarah, son épouse, tu seras mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place? Mais Seigneur, une femme ménopausée qui sera mère, voilà une bonne quoi. Notre Dieu est incroyable. Notre Dieu est étonnant. Et en fait, cette histoire de l'alliance avec Abraham va nous apprendre deux choses sur le Dieu que nous avons chanté. C'est un Dieu qui est fidèle. Il ne perd jamais le fil de son amour et de son histoire. Il invite inlassablement. Et il prend Abraham et Sarah et il leur donne Isaac. Il leur donne le fils de la promesse. Il y a Isaac, il y a Jacob. Et à travers Jacob, qui recevra le nom d'Israël, il y a les 12 tribus d'Israël. Notre Dieu est un Dieu étonnant. Vous savez à quel âge est-ce que Abraham a eu la réponse, l'exaucement de son attente, de sa prière? Oui, notre génie.
À 100 ans.
Wow, est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Franchement, wow. 25 ans d'attente. 25 ans d'attente. Vous avez prié et Dieu a entendu, mais vous ne le savez pas. Vous avez oublié, vous êtes déçu, vous faites la tête, vous tirez la tronche. Et vous dites aux chrétiens, de toutes les façons, je ne reviendrai plus. Je suis venu ce dimanche-là, j'avais mis un signe, j'attendais ça, ça ne s'est pas produit. Revenez 25 ans après, s'il vous plaît, pour dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Abraham, 25 ans après, a vu la réalisation de la promesse de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses et il ne peut pas mentir. La balle numéro 4, on y va vite, 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 vite. La 4, oui. Alors, est-ce que vous connaissez les prochains invités?
Moïse.
Ah. Hey, ils sont pas mal, hein? Ils sont pas loin de la vérité, hein? On affiche. Voilà. Parmi les enfants de Jacob, parmi sa nombreuse descendance, il y a eu son préféré, celui à qui il avait donné une tunique de prince. Il s'appelle Joseph, celui qui était le prince mal aimé de ses frères et qui avait été vendu en Égypte et qui a été jeté en prison parce qu'il voulait rester un homme digne, intègre. Et Dieu s'est souvenu de cet homme intègre qui était Joseph et Dieu l'a élevé. Pharaon l'a établi. Premier ministre, nous on galère en ce moment, vous avez remarqué, n'est-ce pas? Oh la vache! Pouh! Pouh! Franchement, il fallait prier à Dieu. Hein? Joseph était dans le trou et Dieu lui a donné un don remarquable. Joseph pouvait comprendre les pensées de Dieu. Il pouvait comprendre les rêves que Dieu mettait dans la pensée, dans les mémoires, dans les cœurs. Il était capable de restituer non seulement le rêve, mais d'en donner la signification. Et Pharaon a compris qu'il pouvait faire quelque chose. Notre Dieu est un Dieu étonnant. Est-ce que tu connais les dons que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu laisses Dieu activer les dons qu'il a mis en toi pour le plan qu'il a pour ta vie? Joseph a fait du bien à sa famille. Joseph a fait du bien à l'Égypte. Joseph a été remarquable. Mais une fois qu'il était mort, un pharaon qui ne connaissait pas cette histoire est arrivé. Et là, pendant 430 ans, ils ont mis en esclavage le peuple d'Israël. 430 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés, qui sont morts, renés. Non, ça n'existe pas. Ils sont morts, renés, morts, renés dans l'histoire, morts. Moi, ça me parle beaucoup, cette histoire d'esclavage. Et j'aime rappeler aux Africains que l'Égypte, ce n'était pas l'Europe. C'était aussi l'Afrique. C'est toujours l'Afrique. On a une histoire avec l'esclavage. Soit qu'on a esclavagisé, soit que nous avons été esclavagisés. Mais la bonne nouvelle est que notre Dieu est un Dieu de libération. Noël, Dieu tire le fil et il arrive à cette étape où il dit « il va libérer mon peuple ». Moïse se lève, sauvé des eaux, il est appelé par Dieu et il va être envoyé pour être celui qui dit « let my people go ». Pharaon, laisse partir mon peuple. Peut-être que ce matin tu es venu et peut-être que tu luttes avec quelque chose qui t'étouffe, qui entrave ta vie, qui entrave ta liberté. Le Dieu que nous avons chanté, le Dieu que nous célébrons à Noël est un Dieu de libération. Quand il libère son peuple, il libère également la joie abondante de son peuple. Amen. Moïse n'est pas entré en terre promise. Peut-être que tu n'entreras pas non plus dans ta terre promise. Peut-être que tu ne toucheras pas du doigt toutes choses. Mais la Bible a une belle expression. Tous ceux qui ont marché par la foi, comme Abraham, comme Moïse, ils sont comme montés sur une montagne. Ils ont été élevés et ils ont vu de loin. Ils ont vu de loin la terre promise. Ils ont vu et ils ont reconnu qu'il y avait un projet qui valait la peine de suivre Dieu. Moïse est monté, il a vu la terre promise. Et un jour, un homme qui s'appelle Martin Luther King, dont notre centre porte le nom, lui aussi montera comme sur une montagne et il dira « je vois la terre promise ». Même s'il sera tué à 39 ans, sa foi l'a porté à voir au-delà des apparences. Mon ami, quel type de chrétien tu es? Est-ce que tu es un chrétien qui ne voit que les choses apparentes? Ou est-ce que tu es un chrétien à qui la foi fait voir les choses que le monde ne voit pas encore? Mon ami, si tu n'es pas chrétien, Dieu peut te faire voir ce que tu ne vois pas encore. Ça s'appelle la révélation de Dieu. Et ça, ce n'est possible qu'avec la confiance. Exode, ils sortent d'Égypte, ils vont parcourir le désert. Josué va les faire entrer et puis il y aura les juges. Et puis le peuple sera toujours en train d'être rebelle. Et puis malgré que Dieu les délivre, ils sont rebelles. Dieu les délivre, ils sont rebelles. Dieu ne se décourage pas, il envoie encore d'autres cartes d'invitation. La balle numéro 5. Oui. Aïe, 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 vraiment, il t'a bien soufflé. La suite. Vous voyez ? Bien sûr, c'est le livre de Samuel qui nous l'apprend. Ensuite, il y a les prophètes. Dieu va regarder dans le monde entier et il va choisir un monsieur qui s'appelle Isaïe. Isaïe venait d'un village qui s'appelle Bethléem. Ça vous dit quelque chose maintenant avec Noël ? Et il avait beaucoup de fils. Et Dieu lui dit, il envoie le prophète Samuel. Il lui dit, va oindre un roi à la place de Saül. Et on fait venir des beaux garçons costauds, des garçons qui ont de la bonne gueule, une bonne tête. Ils présentent bien. Et puis, je n'ai rien contre les beaux gosses. Hein. Je pense que je ne suis pas moi-même mauvais. Mais bon, là, c'est quand même vrai. Soyons modestes, mais quand même, il ne faut pas abuser de l'humilité. Et donc, du coup, les beaux gosses sont écartés. Et on lui dit, mais au fait, il n'y a personne là qui est roi. N'as-tu pas un autre fils ? Il dit, ah oui, si, le dernier là. Oh, celui-là, il n'est bon qu'à garder les moutons. Mais il dit, va le chercher, on va quand même voir. Et on est allé chercher le David derrière les moutons. Et David est devenu le roi d'Israël selon le cœur de Dieu. Mon ami, peut-être que quelqu'un t'a dit que tu n'es bon à rien. Peut-être que quelqu'un t'a dit, toi, ta place est toujours au dernier rang. Peut-être que quelqu'un t'a dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant ? Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Et peut-être que c'est une parole qui t'a bloqué. Dieu te dit ce matin, regarde David, il faisait partie des invités. David, peut-être qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu n'es bon qu'à garder les moutons. Et Dieu a dit, celui-là, c'est lui. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Mon ami, laisse Dieu regarder ton cœur. De toutes les façons, tu ne peux pas le cacher. Dieu ne rentre pas par effraction. Ouvre ton cœur, il regarde. Quelle est la parole qui t'a anéanti ? Quelle est la parole qui t'a coupé l'élan vital ? Quelle est la parole qui t'empêche d'être, d'aller vers toi et d'aller vers ce que Dieu veut en toi, pour toi ? Et pense à David maintenant et dis, Seigneur, je réponds. Je sors, je quitte derrière les troupeaux, je viens, je réponds à ton appel. Tu es le Dieu de David parce que Dieu s'est révélé dans l'histoire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de David. Et David, il a tellement été touché du cœur. Il a dit un jour, Seigneur, je vais te construire une maison. Une maison rien qu'à toi. Moi, j'habite un palais magnifique, mais je veux faire quelque chose pour mon Dieu. Et là, Dieu lui a dit, mais David, mon amour est gratuit. Tu ne peux rien faire vraiment pour moi. Tout est grâce. Mais moi, je vais faire quelque chose pour toi. C'est moi qui vais te bâtir une maison, c'est-à-dire une descendance, une lignée. Et il y aura même plus, parce que dorénavant, le roi messianique, c'est de ta maison qu'il sortira. C'est de ta maison qu'il sortira. C'est l'histoire du deuxième livre de Samuel, de Chronique, on le retrouve. Et les prophètes ont compris cela. Et il y a un prophète, quelqu'un à la balle numéro 6 ? Oui ! Tu sais ce qu'on va découvrir maintenant ? C'est compliqué, hein ? On va découvrir ce que le prophète Isaïe va dire aussi. Hein ? Il va dire une parole qui va nous faire dire et conclure « Bienvenue Jésus et joyeux anniversaire !» Parce que nous sommes partis d'une histoire plusieurs fois millénaire pour arriver maintenant à l'histoire de Jésus. Et qu'est-ce que Isaïe nous a dit ? La balle numéro 7 ? Oui, regardez ce que ça va ouvrir comme fenêtre, c'est comme un calendrier de l'Avent. Ils se sont dit, mais est-ce qu'il va citer la Bible au moins une fois correctement ? Eh bien, c'est maintenant qu'on va citer la Bible au moins une fois correctement pour conclure. On va le lire ensemble. Car... Amen, on peut s'applaudir tous, on a été très bons. La descendance de la femme, Genèse 3:15, écrasera la tête du serpent. Ésaïe chapitre 9, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça y est, le temps est arrivé. Et quand ce temps fut accompli, Dieu inaugura une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Toute l'Écriture pointe vers lui comme l'accomplissement de cette parole. C'est lui, cet enfant nouveau-né que nous fêtons ce matin. Et regardez ces noms. Merveilleux conseiller. Est-ce que tu as besoin d'une direction dans ta vie? Il est le merveilleux conseiller. Il est celui qui guide nos vies. Il est celui qui nous fait marcher sur un chemin qui l'éclaire. Il est Dieu fort. Est-ce que toi, tu te sens faible? La bonne nouvelle, c'est qu'il est le Dieu fort qui relève les faibles. L'apôtre Paul a compris, il a dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est père à jamais. Est-ce que comme moi, tu es orphelin? Est-ce que tu te sens orphelin? Dieu te dit, tu n'es jamais orphelin tout seul parce que je suis ton père, je suis ta mère. Il est le Père éternel. Il est le prince de la paix. Tu t'inquiètes à juste titre parce que notre monde est en guerre. Et peut-être que tu es en guerre avec toi-même dans ta tête. Et peut-être qu'on te fait la guerre dans ta famille. Peut-être qu'on te fait la guerre au travail. Mais il te dit, je suis le prince de la paix. Et il étendra son autorité souverainement sur toutes choses. Mes amis, n'est-il pas merveilleux de le connaître? N'est-il pas merveilleux de le connaître? N'est-il pas merveilleux de marcher avec lui? N'est-il pas merveilleux de lui ouvrir nos cœurs? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux?